C'est qui ce Périgourdin ?
Happy Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Radio, dans votre rendez-vous hebdo, c'est qui ce Périgourdin ? Aujourd'hui nous accueillons en studio Jean-Pierre Driol, ancien journaliste local, si je peux le dire, bien sûr, devenu auteur de romans policiers. Il est l'esprit créatif derrière Duncan Lorimer, un détective écossais qui enquête en plein Périgord. En plus d'être écrivain, Jean-Pierre est aussi passionné de vélo, je lui ai pas demandé mais je sais que c'est vrai. Il nous parlera de son parcours, de ses romans et de ce qui le lie à cette belle région qu'est la Dordogne. Allons-y et on lui dit surtout bonjour.
Bonjour Corentin, bonjour à tous.
Ça fait très plaisir de vous avoir dans ces studios. On a eu une petite conversation avant pour parler un peu de l'historique de tout ça. Vous avez longtemps travaillé comme journaliste à Bergerac et plus précisément à Bergerac 95. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer du côté de l'écriture de romans ?
Disons que l'écriture me tient et m'intéresse depuis très très longtemps, depuis que je suis adolescent. Et c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire c'est mon goût pour l'écriture qui m'a fait choisir ce métier de journaliste. J'ai débuté dans la presse écrite, La Voix du Nord, un grand quotidien régional du nord de la France, où j'ai passé une douzaine d'années avant de venir à la radio. Mais vous le savez bien, Corentin, à la radio, on écrit beaucoup.
Oui,
en énormément. Ce qui concerne les journaux d'information en particulier.
Tout à fait, donc pour vous, le travail était déjà fait quelque part. Vous saviez déjà comment procéder ou ça a été quelque chose de nouveau peut-être ? En posant la question, je me suis dit peut-être que non en fait.
Alors, la question est intéressante parce qu'effectivement, on écrit beaucoup quand on est journaliste. On n'a pas forcément envie, quand on rentre le soir, de s'attaquer à l'écriture d'un roman. J'ai commencé par des nouvelles, des romans courts pour... d'une certaine façon, me faire la main et puis contenter mon goût de l'écriture de fiction. Et je suis passé au roman très tardivement, en fin de carrière et au début de ma retraite. Et là, si je dis que la question est intéressante, c'est parce que lorsqu'on est journaliste, on doit expliquer aux gens tout ce que l'on sait. Toutes les infos que l'on a, il faut les présenter dans la limite du temps ou de la surface disponible dans le journal écrit. Quand on est écrivain, il arrive un moment où, comme on dit, il ne faut pas aller au bout des choses, mais laisser le lecteur faire le boulot, le laisser à la porte, le laisser imaginer, le laisser compléter ce qui n'est pas dit. Et ça, c'est un obstacle, un petit obstacle que je n'avais pas anticipé. Je l'ai découvert en écrivant la fiction.
Est-ce que ça a été aussi la beauté d'essayer d'écrire, d'apprendre de nouvelles choses sur l'écriture ?
C'était pas forcément le but, mais c'est venu naturellement. C'est-à-dire qu'entre le premier et le troisième roman de ma trilogie périgourdino-écossaise, j'ai effectivement acquis peut-être une certaine technique du roman policier, laisser une action en suspens pour que justement le lecteur s'accroche et soit désireux d'aller vers le chapitre suivant. Les dialogues également, ça s'apprend. Les descriptions, le bon équilibre entre dialogue et description, enfin tout ça c'est une technique qu'on apprend et qui, là c'est vrai, est assez différente de celle du journalisme.
Alors je trouve qu'on parle beaucoup du lecteur, mais on est dans C'est qui ce Périgourdin, donc je vais revenir avec vous. Vous avez dit une petite phrase, vous avez dit c'est à mon goût, en parlant de quand vous écrivez. C'est important pour vous d'aimer le moment où vous écrivez ?
À mon avis, c'est indispensable. C'est-à-dire que celui qui écrit par obligation... d'abord n'aura pas le même plaisir et ne donnera pas forcément le même plaisir au lecteur que celui qui écrit avec son cœur, avec le cœur au bout des doigts. Il y a des chapitres que l'on fait parce qu'on a envie de les faire. Ça vient de soi-même et ce sont les chapitres les plus réussis. Si on n'aime pas, à mon avis, c'est pas la peine. Voilà. Et ça se ressent. Non, faut pas se lancer. Ou alors, si on se lance, le lecteur s'en apercevra.
Et comment on sait ? Je sais que ça, c'est une question que beaucoup de gens qui ont envie de se lancer se posent. Comment on sait que c'est le moment, que c'est la bonne chose qu'on va réussir à terminer ? Parce que c'est quelque chose qui est difficile, je sais, quand on écrit, de terminer les choses. Comment on sait ?
L'envie. C'est simplement l'envie, une très forte envie d'écrire. Et à ce moment-là, il faut... Si j'ai un petit conseil modestement à donner, c'est de ne pas résister à cette envie et se lancer. C'est une aventure au long cours, effectivement, Corentin, vous avez parfaitement raison de le souligner. Mais il faut essayer, Et la première satisfaction, je pense que c'est d'arriver au bout d'un roman. Le manuscrit, il va faire 120, 130, 140, 150 pages A4. C'est déjà une satisfaction d'être arrivé au bout de cette aventure-là.
C'est une sorte de thérapie pour vous d'écrire ? Il y a quelque chose de salvateur, un sentiment quand on finit ?
Non, je pense pas qu'il y ait une thérapie. Bien sûr qu'on y met de soi-même, même inconsciemment. C'est évident.
Sans le vouloir, bien sûr.
Voilà, sans le vouloir. Mais je ne me considère pas comme écrivain au sens pur du terme. C'est-à-dire que l'écrivain, pour moi, c'est celui dont chaque mot provient du cœur, provient du ventre, provient des tripes, et c'est absolument vital. C'était Antoine Blandin, je crois, qui disait « Je me sens mal quand j'écris, mais je me sens encore plus mal quand j'écris pas, donc j'écris. »
Voilà. C'est la solution et le problème à tous mes mots.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors que moi, non. Moi, je me considère plutôt comme un artisan honnête des mots qui aime ça, un raconteur d'histoire. Voilà, c'est pas du tout dans le sens thérapie. Je conçois parfaitement et je respecte ceux qui, par exemple, vont publier à compte d'auteur un livre où ils vont raconter leur histoire, raconter l'histoire d'un traumatisme, de leur famille, etc. Mais enfin, c'est pas mon cas.
Donc vous êtes le conteur du Périgord, mais on pourrait se poser cette petite question. Pourquoi le choix d'un héros écossais ? Duncan Lorimer, pourquoi ce choix ? Qu'est-ce que ça apporte pour vous à l'intrigue ?
Alors, au départ, ça apportait tout. C'est-à-dire que j'étais pas parti, je n'avais publié aucun roman quand j'ai commencé cette trilogie. J'étais pas parti pour une trilogie. Quand on n'a jamais publié, on se contente déjà d'une seule publication. Et donc j'avais imaginé une histoire unique où il s'est avéré que l'Écosse me donnait à peu près tout ce dont j'avais besoin. L'histoire de départ, c'était un flic d'origine sociale très modeste. Alors je l'ai imaginé très vite fils de mineur, puisque j'ai connu les années 60-70 où la profession de mineur c'était quelque chose, c'était le nec plus ultra si j'ose dire, de la classe ouvrière. Donc ce flic d'origine très modeste, confronté au monde d'aujourd'hui, il est en fin de carrière et il est confronté à une enquête qui le fait s'intéresser à une famille d'industriels qui sont haïssables, haineux, qui ont des projets de délocalisation qui vont créer des destructions d'emplois. Et c'était ça. Et l'Écosse, alors, c'est un pays qui m'attire depuis très longtemps. Je connais assez bien la culture britannique, que j'aime. Je connais leur mode de vie. Je me sentais capable d'écrire une histoire là-bas. Et j'avais donc un pays qui avait d'anciennes mines. J'avais la ville de Glasgow, qui est extrêmement turbulente. Donc, pour un polar, ça va bien. Beaucoup de criminalité. J'avais même le football. Glasgow, c'est une ville de football, et le football est un bon marqueur, à mon avis, de l'évolution de notre époque. On est passé d'un sport totalement populaire au sens strict du terme dans les années 60 au business sans nom qu'on connaît aujourd'hui. J'avais tout ça, et j'avais surtout à Glasgow un écart de classe sociale extrêmement grand. Il faut savoir que les quartiers pauvres de Glasgow ont une espérance de vie de 26 ans inférieure à celle des quartiers riches. Donc ça collait parfaitement à mon histoire. Donc je suis parti sur cette histoire d'un flic écossais. Et comme j'ai beaucoup investi de temps et d'énergie dans la documentation sur l'Écosse, je me suis dit, pour démarrer l'histoire, on va faire beaucoup plus simple et on va attaquer par le Périgord, où là j'avais tout dans la tête.
On peut avoir un ordre de temps. Combien de temps ça vous a mis pour démarrer ça ?
Alors, chacun des trois ouvrages de ma trilogie me coûte, ou me font gagner, si j'ose dire, 8 mois. 8 mois de travail, étant entendu que l'écriture pure dure 2 mois. Donc la documentation, je la fais à mon rythme, quand j'ai envie, mais elle dure quand même plusieurs mois.
Le travail en amont, en fait, c'est tout.
Oui,
c'est
le ça. Travail. Oui, voilà la construction du synopsis du roman, puisque moi je ne me sens pas capable d'attaquer un roman sans savoir comment il va se terminer. Donc j'ai besoin d'un squelette, d'un plan. Il y a cette construction là, la documentation que je fais au fur et à mesure, parce que c'est un peu prise de tête. L'écriture, alors elle c'est 2 mois, mais 2 mois chaque jour. Voilà, ça c'est j'aime bien la faire de manière continue, de manière à pas perdre le fil.
Et vous essayez de faire une page chaque jour ? Comment vous réglez
Généralement mon unité, c'est le chapitre. Mais d'accord. Les chapitres sont courts, donc ça fait quelques pages à 4 seulement.
Est-ce que, je reviens sur cette idée de chapitre, vous avez essayé de vous adapter à l'époque, de faire des chapitres courts? Je sais que beaucoup de romans essayent de faire des choses courts ou longs en fonction de leur manière de voir les choses. Est-ce que vous avez essayé de voir ça?
Oui, je l'ai fait parce que j'ai eu des retours sur le premier, où mes chapitres n'étaient pas exceptionnellement longs. Moi, il me semblait satisfaisant. Et puis, quand j'ai attaqué le deuxième, j'ai réduit un tout petit peu la durée de mes chapitres, la longueur, et j'ai eu des retours positifs de lecteurs, de lectrices qui m'ont dit « Ah, c'est bien, c'est nerveux, ça... » Donc, le troisième, c'est encore plus séquencé, et je m'aperçois, quand je lis même des grands auteurs aujourd'hui, que la tendance, effectivement, est au chapitre court. On zappe facilement, on passe d'une idée à l'autre de manière très brève, beaucoup plus brève. Il suffit d'ouvrir des polars ou des romans généralistes journalistes d'il y a 10 ans, c'était pas du tout le cas.
Tout à fait. Maintenant, on va dire qu'ils essayent de tenir en haleine et à lire, c'est très agréable. Depuis tout à l'heure, on parle de vos deux premiers romans, donc je rappelle Meurtre à l'écossaise en Périgord et Règlement de compte en Périgord. Est-ce que vous pouvez nous parler de la nouveauté du troisième volet quand même? Voilà, j'aimerais bien qu'on en discute.
Alors, le troisième volet, c'est un volet de clôture, puisque j'achève la trilogie. Et c'est un roman où il est question donc de mon inspecteur, hein, Duncan Lorimer, qui est maintenant bien installé en Périgord, mais qui conserve cette espèce de goût pour aider les gens qui sont un peu laissés pour compte. Hein. Et donc, là, il va s'intéresser au cas d'un jeune Écossais, justement, originaire de Glasgow, comme lui. Et c'est un ancien délinquant qui a décidé de s'en sortir et de retrouver un peu une voie de vie normale. Il participe donc à un chantier de fouilles archéologiques en Périgord. Et malheureusement, l'archéologue responsable du chantier est retrouvé mort. Donc, comme il y a dans ce groupe de bénévoles qui participent aux fouilles, trois jeunes Écossais qui viennent de Glasgow, dont on sait qu'ils sont encadrés par une policière, dont on sait qu'ils sont anciens délinquants, les soupçons se portent tout de suite sur eux et en particulier sur ce jeune homme. Et Duncan Lorimer dit non, c'est pas possible que ce soit lui, je vais essayer de le disculper. Voilà. Et donc on suit, comme dans les deux précédents, l'action se partage entre le Périgord, avec une enquête sur place, une enquête officieuse bien sûr, puisque Lorimer n'a plus aucun rôle officiel. Et puis donc on suit la fuite de ce jeune homme qui revient en Écosse, où il va falloir le retrouver avant que la police ne l'appréhende.
Magnifique. Donc c'est à retrouver à quel endroit exactement? À Bergerac, je crois. Est-ce qu'on peut leur donner l'adresse à nos auditeurs?
Alors, on peut le trouver absolument partout, puisque l'éditeur Geste est fort bien distribué. Pour ceux qui aiment acheter les livres en librairie, par exemple à Bergerac, il y a la librairie Montaigne.
J'aime bien les mettre en avant en général, les librairies, effectivement.
Voilà, la librairie Montaigne qui m'a soutenu depuis la parution du premier. Et puis, on peut le trouver dans toutes les librairies. Si elles ne l'ont pas en stock, elles peuvent le commander. Et si on préfère commander sur internet, il est disponible sur toutes les plateformes que l'on connaît, Amazon, la Fnac, Le Furet du Nord et d'autres.
Voilà. Évidemment, et je reviens sur donc la dédicace que vous avez fait le 14 juin de 10h à 12h30 à la librairie Montaigne. Comment ça s'est passé cette rencontre avec les lecteurs? Est-ce que vous avez pu échanger avec eux sur la vision du décor du Périgord?
Oui, bien sûr, c'est l'intérêt, hein, le salon ou la dédicace en librairie est toujours une bonne occasion de rencontrer physiquement ses lecteurs ou ses lectrices. Et quand on a sorti plusieurs bouquins d'affilée, c'est intéressant de voir que les gens viennent chercher le deuxième ou le troisième parce qu'ils ont lu le ou les précédents. Et on peut échanger avec eux justement sur ce qu'ils ont, sur le fond, sur ce qu'ils ont pensé, sur ce qu'ils ont aimé, sur ce qu'ils ont regretté peut-être parfois. Donc ce sont toujours des moments très enrichissants.
Vous avez l'impression que, comment dire, ils connaissent une part de ce que vous avez créé vraiment de manière intense?
Ah oui, j'ai eu des surprises, des personnes alors que je connaissais par ailleurs, mais que je ne connaissais pas comme fervent de lecture, et qui ont parfaitement vu mes intentions d'écriture, mes intentions de créateur, on va mettre ça entre guillemets, il faut pas se prendre trop au sérieux. J'ai été étonné effectivement de gens qui avaient, c'est pas forcément les gens auxquels je m'attendais le plus en tant que lecteur très attentif et vraiment intuitif.
Donc par moment, les gens comprenaient vraiment ce que vous avez voulu dire?
Oui, absolument, absolument. Mais oui, c'est pas, en même temps, c'est pas une littérature très compliquée. Hein. Mais c'est vrai que même dans les détails, dans l'analyse des profils de personnages, on m'a dit des choses très, très sensées. Oui.
Ça vient peut-être du fait qu'on vient de la même région. Est-ce que pour vous, je sais que vous vous promenez souvent à vélo, est-ce que c'est une façon de nourrir directement l'ambiance et les descriptions des enquêtes, que ça se passe ici?
Les descriptions du Périgord?
Du Périgord.
Oui, bien sûr. Oui, j'aime beaucoup les romans d'atmosphère. Hein. Alors, mes trois bouquins, ce sont des polars d'enquête, des polars de procédure, qui a fait quoi? Mais en même temps, j'aime bien envelopper ça d'une atmosphère. Et c'est du polar régional, donc on met le Périgord en avant. Ses paysages, mais aussi son fond social. Hein, c'est un de mes désirs également, en écrivant, de mettre mes personnages dans une atmosphère, dans un climat social particulier qui explique leur comportement.
Est-ce que vous avez parlé un peu de Glasgow, un peu de ce qu'il y a autour? Est-ce que on va le dire, tout est politique, mais est-ce que c'est important pour vous d'en parler ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est important, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et c'est pas mes bouquins qui vont bouleverser la marche du monde, j'en suis bien
persuadé. Non, mais ça fait partie du processus créatif.
Voilà, c'est ça, et oui, absolument, c'est quelque chose qui me tient à cœur, voilà, et dans le premier, j'ai notamment ressorti le nom d'un auteur britannique que tout le monde certainement, enfin, pas mal de gens ont oublié aujourd'hui, Alan Sillitoe, qui dans les années 60 avait un peu révolutionné la littérature anglaise, qui était très compassée jusque-là, où on parlait surtout des classes supérieures. Lui, il a décrit la classe ouvrière dans ses bouquins, qui ensuite ont été adaptés en film, et ça a été une petite révolution culturelle, puisque pour la première fois, on mettait ces classes sociales défavorisées en avant.
Donc ça a été un peu un modèle pour vous, entre guillemets ?
Alors, modèle, je ne sais pas. Je crois qu'il faut pas avoir de modèle. Il faut écrire suivant ce que l'on ressent soi. Inconsciemment, oui, je pense que j'avais lu ça.
Il vous a inspiré, en tout cas.
Oui, c'est ça, voilà. C'est une inspiration plus qu'un modèle.
Dernière question. Je sais que on a beaucoup d'auditeurs qui aiment écrire. Je le sais déjà parce qu'on reçoit des choses. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un du coin, ou pas forcément, pour se lancer ?
Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je crois que la première chose, c'est de suivre son envie. Si on a envie d'écrire, il faut écrire. Voilà, il faut pas se dire ah non, c'est pas pour moi, j'ai pas la capacité, je suis pas à la hauteur. Il faut écrire. Alors, dans un premier temps, on peut écrire pour soi. Après, je crois qu'il faut pas avoir peur de montrer son travail à des proches dont on sait qu'ils aiment la lecture et qu'ils sont suffisamment honnêtes pour dire la vérité sur ce qu'ils ont pensé du travail. Et puis après, il faut se lancer, se confronter aux autres, c'est-à-dire ça peut être participer à un concours de nouvelles. La nouvelle, c'est très court, mais c'est pas pour ça que c'est facile à faire. C'est quelque chose qui a ses règles, qui est exigeant. Donc il y a beaucoup de concours de nouvelles aujourd'hui en France qui réunissent beaucoup de participants. Ça peut être un bon test pour voir un peu ce dont on est capable de faire. Et puis après, si on passe au roman, il faut faire le tour des éditeurs et ne pas avoir peur d'envoyer son manuscrit, même si on sait que la chance est infime d'être publié aujourd'hui. Les éditeurs sont submergés de manuscrits. Mais il faut bien choisir son éditeur. Voilà, faut être conscient, faut aimer son travail jusqu'à dire qu'on est très bon. Mais il faut aussi avoir suffisamment de recul par rapport à ce travail et à soi-même et à ses capacités pour dire « je vais pas aller chez Gallimard ou chez Robert Laffont, mais je vais plutôt commencer par un éditeur plus modeste et qui sera adapté surtout à ses écrits ». C'est-à-dire que tout le monde ne publie pas tout. Les éditeurs sont spécialisés aujourd'hui. Et il faut bien se renseigner sur l'éditeur, avec Internet c'est facile, avant de lui envoyer son manuscrit. Et choisir le bon éditeur pour son manuscrit.
J'ai l'impression que c'est le mot de la fin, c'est prendre le temps et bien réfléchir. Voilà, le travail en amont est important. Même pour le choix de l'édition, en fait.
Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas être impatient. Voilà, je pense que l'écriture et la publication d'un texte, c'est une affaire qui demande beaucoup de patience et de persévérance.
La patience.
Voilà.
Merci beaucoup à vous d'être venu
merci
au micro
Corentin.
De Pire Radio, c'était un plaisir. Merci d'être venu pour cette donc C'est qui ce Périgourdin. Je rappelle que elle passe entre 12h30 et 13h30 aujourd'hui. Donc c'est un volet spécial avec vous. On est très content de vous avoir dans les studios d'Apir Radio. Vous pouvez écouter cette rubrique sur le site apirradio.fr, à écouter et réécouter évidemment en podcast. Merci encore.
Merci Corentin.
C'est qui ce Périgourdin ?
Happy Radio.